Interview.
1 du jour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Salut Émilie.
Salut.
Avec la Libre Pensée, dont tu es membre, tu proposes une conférence. Mais avant de rentrer dans le détail, rappelle-nous ce qu'est la Libre Pensée.
Eh bien, oui, c'est important. Alors, la Fédération Nationale de la Libre Pensée, c'est la plus vieille asso de France. Et c'est une asso qui marche en fédération, donc dans la plupart des départements français, vous avez une fédération de la libre pensée. Nous, historiquement, on est rattachés à celle de l'Ardèche, parce qu'à un moment donné, la fédération de la Drôme est morte, comme ça se passe des fois. Bah, en tout cas, plus de membres affiliés à la libre pensée, à l'asso dans la Drôme. Et du coup, quand on a à nouveau donné naissance à une asso, on s'est greffé sur celle de l'Ardèche, et du coup... Voilà, historiquement, maintenant, on est relié à celle de l'Ardèche. C'est donc la Libre Pensée 0726. Les Ardéchois y tiennent beaucoup. D'abord l'Ardèche. Donc la Libre Pensée, comme je disais, c'est la plus vieille asso de France. Et c'est. Alors, c'est 1800.
Ah oui.
La fin du 19e. Donc, c'est
avant même la loi des assos.
Exactement. Avant même la loi des assos, il y avait cet asso des membres fondateurs hyper célèbres. On avait Victor Hugo. Enfin, on avait des gens quand même des intellectuels, quoi. Enfin, des intellectuels, pas de nobles a priori, mais des intellectuels. Et ça fait partie des assos qui ont beaucoup milité pour la loi de 1905, celle de séparation de l'Église et de l'État. C'est un de nos dadas favoris, c'est de faire respecter cette loi, parce qu'on pense que c'est une loi de paix, en fait, avant tout. Mais c'est une asso antidogmatique, en fait, en général. Ça veut dire qu'elle s'oppose au fait de d'édicter des vérités révélées comme des faits en les imposant aux gens, en fait. On promue l'esprit critique, l'analyse des choses carrées et rationnelles face à l'obscurantisme.
Donc, ça combat un peu tous les obscurantismes.
Eh bien, tous, ouais. C'est-à-dire que.
Citons quelques autres dadas, par exemple.
Bah, non, mais moi, ce sur quoi je veux insister, c'est que, voilà, on ne combat pas les gens et leurs croyances, parce que la loi de 1905, notamment, elle insiste sur la liberté de conscience. C'est hyper important et chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Et c'est fondamental, il me semble. Par contre, au niveau des dogmes et surtout de leur. On va dire de leur clergé, parce que souvent, il y a un clergé qui gère un dogme. C'est là, souvent, qu'on s'oppose fermement aux gens qui essayent comme ça de régir la vie des autres de façon globale et qui finissent par s'affronter. Et ça emmerde toujours les mêmes, en fait.
Est-ce que ça ne crée pas un autre dogme face à ces dogmes-là, finalement ? Celui de... Souvent, les gens qui sont non-croyants vont être... catégorisés, cartésiens, je ne sais pas, agnostiques, enfin bon. Et donc, du coup, ça crée forcément une... Les purs scientifiques, par exemple, c'est aussi un dogme, peut-être, quelque part.
Bah,
je me place du côté de ceux qui croient, peut-être. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit penser.
Mais... Enfin, il n'y a pas de « c'est comme ça qu'on doit penser ouais. ». Tous les débats sont permis, tous les débats sont ouverts et encouragés, en fait. Et quand on nous arrête face à des choses qui sont édictées brusquement, en mode « non, ça, on n'en discute pas », eh ben, ça a tendance à nous titiller, nous. Et justement, on veut en discuter. Donc, tous les tabous, tous les interdits. Tu parlais de la science, finalement, mais la science, c'est un outil, en fait. La science, ça ne peut pas être un dogme. C'est un outil et on peut s'en servir bien ou s'en servir mal. Mais ça, c'est pareil, le bien et le mal, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la libre pensée, elle prend des positions de société. La science, elle est censée apporter des faits qui aident les gens à prendre des positions de société, mais elle dicte pas les positions de la société. La science, elle est pas démocratique en soi, la science. Donc, elle est censée apporter des faits, des informations qui aident les gens à prendre des décisions de façon démocratique. Donc, si on arrive à édicter comme ça la science en termes de dogme, ben écoute, on a encore rien compris, visiblement. Enfin, voilà.
Non, j'ai rien compris.
Non, c'est pas grave. Réfléchis encore un peu, ça va aller. Finalement, la liberté de conscience, elle est garantie par plein de choses, et notamment par le moins de choses possibles qui soient obligatoires. Or là, on va parler de quelque chose qui est plus ou moins obligatoire. Et nous, ça nous embête un peu, les choses obligatoires.
Et c'est donc comme ça que finalement on peut comprendre le combat sur un clergé, des clergés, un ensemble de dogmes. Les dogmes politiques en font partie aussi.
Et ben, le capitalisme notamment.
Ah oui.
Ben, c'est le, j'allais dire, c'est le pire de tous. C'est-à-dire que c'est celui qu'on nous impose comme étant un truc inévitable. C'est-à-dire, hey, les gars, c'est rude la vie des pauvres, mais c'est comme ça, c'est le capitalisme. Et ben, nous, on n'est pas d'accord.
Il n'y a pas une couche là-dessus, l'ultralibéralisme, par exemple. Est-ce que c'est aussi un dogme?
Oh, ça va avec. Je pense que ça va avec l'ultralibéralisme. En fait, c'est un mal nécessaire à la recherche de capitaux, en fait. Mmh. Ça va avec.
Le communisme est un dogme?
Le communisme est un dogme. Alors, je ne sais pas, ça dépend duquel tu parles. Parce que ça, c'est pareil. Historiquement, le communisme, on en a un paquet qui ont été gérés différemment. Donc, voilà. Alors, j'insiste sur un truc, c'est que les prises de position de la libre-pensée, elles sont, on va dire, comment dire, sociétales, finalement. Mais ça n'est ni un syndicat, ni un parti politique. Pour être franche, je ne vais pas mentir en disant qu'il y a des gens de tous bords politiques à la libre-pensée. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de gens de chez les Républicains, il n'y a pas de gens du Rassemblement National, il n'y a pas de gens de La République En Marche. A priori, il n'y a plus personne du Parti Socialiste. Après, par contre, à gauche, ça navigue. Voilà, ça navigue dans plein de sphères qu'on peut catégoriser comme ça, un peu basiquement, autour de la gauche. Voilà, c'est un peu vaste ce que je dis, un peu vague. Mais voilà, c'est pour dire que c'est pas un parti, mais que les prises de position, notamment anticapitalistes, font qu'il y a des gens qui viennent vers nous, il y a des gens qui viennent vers nous, il y a des gens qui viennent pas vers nous. Voilà. En effet, le fait que ce soit une asso aussi anticléricale et du coup, y a tout plein de gens de la droite notamment qui sont très associés à des partis catholiques qui, évidemment, n'ont pas très envie de venir voir ce qu'on en dit.
Ce qui est étonnant, un petit parallèle, parce que cette loi de 1905 peut être défendue par des gens qui sont très croyants et qui comprennent le
tout
sens que ça a.
Absolument. Alors là, c'est pas
partie de la libre pensée. Voilà,
c'est le seul truc. Il pourrait.
On peut être
mais
catholique de gauche.
Oh, j'imagine, j'en sais rien. Alors ça, j'irai pas tirer de conclusion hâtive. J'imagine que tout est possible. Ouais, alors on défend la loi de 1905 pour la liberté de conscience parce que il y a une célèbre phrase qui dit « Je ne pense pas comme toi, en gros, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que tu puisses le penser ». Ça, je pense que c'est vraiment un des trucs assez importants dans la libre pensée. Mais évidemment, ça s'arrête au moment où les dogmes font du mal, quoi. Or, on considère que les dogmes nuisent à l'épanouissement, à l'autodétermination, quoi. Et du coup, je pense que sur certains points, comme la défense de la loi 1905, on est des fois conjointement soutenus ou en tout cas suivis par certaines assos protestantes, par exemple, qui sont plutôt attachées à cette loi de 1905. Mais le cléricalisme, c'est quand même le fait de faire entrer dans le débat public la religion de gré ou de force. Hein. C'est des gens, par exemple, l'Église romaine catholique, celle du pape, elle a quand même un truc qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, et c'est comment les gars, nous, ensemble catholiques, comment on s'incruste dans toute la politique et dans tous les aspects de la vie des gens, quoi.
Dans l'école, dans les
gouvernements, dans tout ça, et ils ont quand même, c'est très clair et ça se trouve, hein, c'est la doctrine sociale de l'Église, c'est dans les encycliques, c'est dans tout ça, c'est leur but en fait, hein, c'est quand même d'évangéliser la planète, ils le cachent pas. Plus il y a de croyants, plus ils sont contents. Plus il y a de catholiques, plus ils sont contents. Bon, à partir de ce moment-là, il y a quand même, tu vois, il y a des intérêts qui vont pas dans le même sens, quoi.
Et en ce moment, c'est quand même pas mal chahuté avec le président qu'on a.
C'est
tout
chahuté. Oui, alors il y en a d'autres qui nous avaient chahuté, mais celui-là, il chahute beaucoup. Ouais.
Il chahute beaucoup. En tout cas, les libres penseurs.
Il chahute tout le monde, en fait.
Oui,
parce
c'est vrai. Mamie, il vous titille en premier lieu. Peut-être que vous avez réagi avant tout le monde, non? On peut l'espérer.
Ah bah, on réagit vite, oui. Ça. Ouais. On a alors, deux, trois membres qui sont réactifs.
Qu'est-ce que vous pouvez mener comme action, par exemple? Comment on défend concrètement la loi de 1905?
Alors,
on fait du lobby auprès des... des députés, des trucs comme ça, pour être sûr que
non, pas spécialement ça. Pas spécialement ça, non. On fait du lobby, non. Par contre, quand il y a des choses qui sortent, des propositions, quand là Macron il a dit on va modifier la loi 1905.
Je veux restaurer le lien avec.
Ouais, c'est ça. Bon, bah là, en effet, on se positionne et on essaye de faire circuler nos positions pour qu'elles atteignent le plus de monde possible. Et puis bah, après, il y a un truc tout bête, c'est qu'on a des juristes à la libre pensée et que quand une mairie donne 2 millions pour mettre sur la place de village une statue de Jean-Paul II, on dit hey, non. Tes 2 millions, tu vas les foutre à l'école publique si tu veux, mais pas dans une statue de Jean-Paul II. Donc voilà, ça, c'est des trucs qui sont très réguliers et sur lesquels, quand la libre pensée, elle part en action judiciaire. Légale, elle est sûre de gagner. Si on n'est pas sûr de gagner, on part pas. Parce qu'on veut pas. Il s'agit pas d'idéologie en fait. On n'est pas là en mode, on n'est pas anti-catholique ou quand on fait respecter la loi de 1905. En tout cas, on est là pour respecter la liberté de culte. Donc, on estime que les gens n'ont pas à payer d'impôts pour mettre en place une statue strictement catholique.
Oui, voilà, ce n'est pas un acharnement sur la religion catholique en tant que telle. Non. On aurait pu dire islam avec, c'était pareil.
Ben non, parce que souvent on se fait traiter d'islamo-gauchiste, par exemple, c'est ce qui est drôle.
Pourtant, l'islam a aussi cette envie d'évangéliser, il y a aussi des écoles coraniques, etc.
Donc, au niveau proportion,
c'est moins présent. Mais...
Puis au niveau proportion, c'est ridicule. Là, quand les gens ils nous font le délire du grand remplacement et tout, ça fait marrer.
Non, mais pas en France, mais en tout cas, il y a la même idée.
Eh bien oui, mais alors, la libre pensée, c'est une asso, il y a des équivalents dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays du monde. Elle est regroupée d'ailleurs dans une asso qui s'appelle l'AILP, l'Association Internationale de la Libre Pensée, et notamment dans des pays à dominance musulmane. Et en effet,
ils ont le même combat.
Ils ont le même, mais face à d'autres dogmes qui sont dominants. Voilà. Donc, c'est juste que nous, on s'oppose aussi à ce que la laïcité soit instrumentalisée pour faire chier toujours les mêmes. Donc, quand les types qui disent la laïcité et en fait qui sont des catholiques déguisés et qui dont le seul but est d'emmerder les musulmans, eh ben on tire le haut là aussi et on dit bah non, la liberté de conscience c'est pour tout le monde et la loi 1905 c'est pour tout le monde.
Donc la libre pensée fait aussi.
Tu m'as fait partir
beaucoup
là-dessus, mais il y a d'autres choses.
Parce que c'était votre. Disons que c'est d'ailleurs comme ça que tu as annoncé. C'est votre grand fait d'armes. C'est aussi comme ça qu'on peut connaître la libre pensée, la loi de 1905.
Et c'est drôle que tu dises le fait d'armes parce que c'est vraiment une asso qui est très proche des assos pacifistes parce qu'on est antimilitariste à mort. Du coup, les armes, elles sont à la fois, elles sont plutôt intellectuelles, morales. Ouais.
C'est très bien.
En effet.
Et donc tu disais, c'est surtout quand même aussi de la sensibilisation, beaucoup de...
Dans les fédés, c'est ça, c'est des réunions publiques, des communiqués, puis des
un
réunions
journal.
En fait. Alors il y a un mensuel de la libre pensée, mais national, qui s'appelle La Raison. Et souvent, les fédés, elles ont des petits bulletins. Donc par exemple, en Ardèche Drôme, c'est le Mécréant. Il y a plein de...
Et des conférences.
Et voilà, alors on dit conférences, je pense que c'est un grand mot dans mon cas. C'est-à-dire que, pour être franche, il y a des gens qui font qui sont à libre-pensée depuis très longtemps, qui sont des militants très actifs depuis très longtemps, qui sont des puits de science à faire pâlir beaucoup d'entre nous, et qui donnent, eux, des conférences, en effet, et généralement... Putain, en sortant de là, t'as appris des choses et t'es content. Alors, je dis pas que ce sera pas le cas avec moi, mais en tout cas, je débute et je peux pas du tout me vanter d'avoir le même bagage intellectuel. Moi, je me contente d'un sujet, que je trouve très important en fait, mais qui est un sujet d'actualité et qui est encore un peu vague. Pour trouver des infos, c'est pas facile. Donc moi, je les ai cherchées pour un peu les donner aux gens en fait.
Alors, on a toujours pas donné le thème et on va pas le faire tout de suite. Pourquoi tu te lances dans la conférence. Ça fait longtemps que tu es à Libre Pensée déjà.
Ça fait une dizaine d'années que je suis à Libre Pensée.
Pas mal.
Ouais, mais voilà, comme je te disais, c'est pas une asso dont tu prends il faut le temps de se mettre dans le bain. C'est une asso qui a beaucoup, beaucoup de sujets. Et puis, je te dis, il y a l'asso nationale, il y a les fédérations départementales. Donc, moi, je suis vice-présidente de la fédé départementale. Et je suis aussi une invitée de ce qu'on appelle la commission administrative nationale. C'est en gros le CA national, quoi. Et je suis invitée à titre d'observateur. Et puis, surtout, pour essayer de mettre en place une commission jeune. Parce que, malheureusement, malgré la modernité de ces combats, la fédération question de la libre pensée, c'est une fédé un peu vieillissante. Donc on essaye d'accentuer sur l'ouverture vers les nouveaux libres penseurs. Alors c'est pas forcément des jeunes, c'est toujours compliqué, on sait, de s'impliquer dans ce genre de choses quand on a 18 ans, mais voilà, des gens, des nouvelles personnes en fait, et de penser à l'avenir de l'asso. Voilà. Parce qu'en effet, il y a des membres très vieillissants et que finalement, au fur et à mesure, eh ben, on se retrouve avec de moins en moins de gens jeunes.
Donc est-ce que c'est quelque chose qui, tu disais, ça permet de redynamiser ça, de moi d'y aller aussi
Ah, carrément, ouais, moi ouais. Je fais ma part et je prends quelque part un peu à la suite parce que les gens sont encore là. Quand je dis vieillissante, gens ne sont pas sur le point de mourir demain matin, mais ils sont encore très actifs et il se passera encore plein de choses avec eux. Et voilà. Mais il faut ouvrir ça et les jeunes qui font partie de la LP sont tous sur le même credo que moi. C'est voilà, comment on fait pour... Pour des fois, pourquoi pas mettre un petit coup de peps là-dedans aussi, parce que moi, des fois, je lis des communiqués, tout ça, je dis aux gens qui font partie de la commission, je leur dis, écoutez, là, il faut...
C'est pas drôle.
Bah, c'est pas que c'est pas drôle, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut des prérequis incroyables. Et du coup, je dis, attendez, moi, j'ai dû prendre le dico 14 fois, j'ai cherché 22 trucs historiques sur Internet. Je dis, c'est un peu rude, quoi.
Ouais.
Donc, il va falloir vulgariser 2-3 trucs, parce que c'est normal, quoi, ça me semble normal. Garder une certaine exigence intellectuelle, ok, mais pour faut s'ouvrir un petit peu.
Bon, alors, on va dire que c'est une conférence quand même.
C'est une réunion débat.
Une réunion débat. Bon.
Parce que je vais faire un petit exposé, on va dire ça comme ça.
Exposé,
ensuite,
ah oui.
C'est beau, ça, hein ?
Ouais, ça rappelle les années des collèges.
C'est ça. Et ensuite, ensuite, je suis en demande soit de remarques, soit de questions, si je peux y répondre, soit même d'informations complémentaires, ou voilà.
Qui compléteront cet exposé.
Ouais. Tu crois qu'on va dire sur quoi sert ?
Bien sûr, on va le dire maintenant.
Ah ! Eh bien, c'est à propos du service national universel.
Alors, déjà, tout de suite, moi, il y a un truc qui me fait... Il y a une antinomie dans cette dénomination, non ?
Il est national, mais il est universel.
Ouais.
Alors, il est universel parce qu'il est contrairement à ce qu'était le service militaire qui était pour les gens de sexe mâle, il est pour les hommes et les femmes. Les autres, je ne sais pas, ceux qui se situent à des... En tout cas, on n'en parle pas.
Bah non, bah, comme d'habitude, non ?
Voilà.
Ouais. Donc, le service national universel, ça fait partie du programme du président actuel.
C'est une promesse de campagne.
Promesse de campagne, oui. Remettre le service militaire, quoi, en gros.
Alors, justement, il s'en défend.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, bon, là,
c'est pas tout à fait les trois jours, ni la journée.
Non,
bon,
pas alors. Du tout. Alors, c'est en phase test. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on trouve sur Internet, là, est soumis à condition. Il faut faire tous les sites qui terminent par .gouv.fr pour arriver à se faire une idée à peu près correcte de ce que va être le service universel, tout en mettant plein de guillemets partout, parce que tout est conditionné à la réussite de la phase test qui a lieu en ce moment. Donc, la phase test, elle a été sélectionnée par les recteurs et les préfets des départements.
Les recteurs, c'est l'école, ça ?
Oui, parce que alors, c'est sous la responsabilité du ministère de la Défense, donc l'armée, et conjointement avec l'école, avec l'éducation nationale. Alors, ça crée déjà des petites complications parce que...
Un étonnement de ma part, non ?
Ouais, bah, un étonnement, je sais pas. Mais en tout cas, quand tu lis vraiment clairement ce qui se dit, tu sais que c'est l'armée qui a la main dessus, par contre, clairement. Par contre, les deux se flippent un peu parce qu'ils savent pas trop lequel des deux va devoir payer. C'est plusieurs milliards, évidemment, parce que c'est jusqu'à 800 000 jeunes par an, en fait. Ça concerne toute cette classe d'âge-là. Donc c'est trois phases, on va dire, dans la version qui est pour l'instant annoncée. Une phase d'information menée dans les collèges des 13 ans par les militaires, les réservistes, les gendarmes, tout ça.
Dès 13 ans.
Ouais, pour te dire que dès 15-16 ans, alors c'est pareil, c'est entre 15 et 18, autour de 16 ans, il y aura une phase obligatoire d'internat en gros, mais d'internat dans les internats, dans les casernes, bon, tout ça, dans les centres de formation, c'est pareil, c'est un peu vague. C'est un peu vague et puis c'est un peu inquiétant aussi, parce qu'ils ne savent pas trop où, comment, quoi mettre 800 000 jeunes. Et cette phase-là, elle tournera autour de l'esprit de défense déjà. Voilà, pour être clair, ça fait pas franchement partie du programme scolaire, l'esprit de défense. Donc tu peux chercher partout, hein, tu trouveras pas vraiment ce que veut dire l'esprit de défense, sauf... Alors attends.
Il faut quand même un peu imaginer ce que ça veut dire, l'esprit de... C'est-à-dire qu'il y ait... on revient... Est-ce qu'on revient pas un petit peu à cette notion de patriotisme?
Bah, évidemment.
Cher à des programmes qu'on a...
Tu veux dire, alors le parallèle avec,
avec... Avec un certain maréchal.
Avec, oui, alors qui est plus maréchal, hein, parce qu'il a été...
Il a été déclassé.
Ouais. Mais en tout cas, oui, alors il est facile à faire, le parallèle entre Macron et Pétain, il est évident, il n'arrête pas de nous en faire en plus. Macron, il y va droit dedans, donc je veux dire, ouais. C'est pas de l'interprétation fantaisiste. Alors l'esprit de défense, moi j'ai trouvé une sorte de définition dans le livre blanc, et le livre blanc, c'est le livre qui fixe la stratégie française de défense et de sécurité nationale. Pour vous faire un résumé, parce que ça, c'est des choses que je lis. Sensibilisation, l'association et l'adhésion de l'ensemble de nos concitoyens à la volonté collective, de cohésion de la nation, de vision partagée de son destin. L'esprit de défense est défini par tout ce qui concourt à la prise de conscience que l'espace dans lequel nous vivons, les valeurs que la République porte et les libertés conquises méritent d'être promues, car elles peuvent être à tout moment remises en cause. Voilà. Bon, alors déjà, bon, ça fait marrer, ça veut dire qu'il joue vraiment sur la peur à mort, c'est-à-dire attention, on va être attaqué, donc mobilisons-nous. En fait, c'est le début d'une phase de mobilisation, complètement ça. On te fout un uniforme, on te fait chanter la Marseillaise au réveil et on fait le lever de drapeau. Ça, c'est,
Je lève juste une autre chose dans cette ligne, c'est qu'on parle d'esprit de défense, a priori, donc ouais. C'est de la défense de ce qu'on aurait acquis, de notre niveau de société. Et là, il y a le mot promouvoir, quand même. Donc, ça veut dire que cette esprit de défense a une capacité de coercition. Et là, c'est pas du tout pour moi, c'est pas de la défense. Si on promeut aussi nos valeurs républicaines, alors c'est qu'on va les étaler à l'extérieur. Et
alors
on est
c'est
plus
ça.
Dans la défense.
Ouais. Ben on sait pas trop en fait. Hein. C'est pour ça. C'est vraiment très philosophique. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve là sur le SNU, soit alors c'est pas clair en termes pratiques. C'est-à-dire c'est pour ça que moi j'ai dû vraiment chercher des infos précises. Par contre, tout ce qui est on va dire philosophique, ça c'est clairement écrit partout. Donc voilà, on peut tirer la conclusion que c'est l'armée qui a la main dessus. C'est facile à lire. Je le démontre dans l'exposé. On peut voir carrément que c'est plein de jolis mots type cohésion nationale, citoyenneté, esprit de défense, toutes ces tartes à la crème là, dans laquelle on met un peu tout ce qu'on veut. Et puis, en effet, comme tu le dis, on se défendrait, alors on ne sait pas de quoi, parce que moi, je sais pas sur quoi on est attaqué, en fait, je n'ai pas tout à fait compris encore, il va falloir qu'il nous le démontre. Et puis, promouvoir, mais est-ce qu'on promeut à l'intérieur? Est-ce qu'on promeut à l'extérieur? En tout cas, il y a une phase obligatoire d'internat d'un mois environ. Alors voilà, c'est pareil, soumis à condition, pour développer tout ça. Alors il y a un problème, il y a le jeune de l'Union nationale lycéenne, Louis Boyart, qui fait partie des jeunes qui ont été blessés en manif, qui disait, en gros, là, ce qu'on nous propose, c'est quelque chose qui souscrirait aux missions de l'école. Donc on abandonne l'école d'un côté.
Pendant un mois.
En fait, on abandonne l'école, c'est-à-dire l'État abandonne l'école publique, faute de budget, et te met des missions de cette éducation nationale-là dans ce service obligatoire, mais en caserne, encadré par des militaires. Enfin, on a quelque chose quand même d'assez particulier. Et puis là où ça pose problème aussi, c'est qu'il y aurait une troisième phase à partir de 18 ans. Alors, soit entre 18 et 21 ans, soit entre 18 et 25 ans. On ne sait pas trop, qui serait sur la base du volontariat, mais avec des choses pour nous y pousser. C'est-à-dire, par exemple, tu es volontaire, mais si tu n'es pas volontaire, tu ne peux pas passer ton code. Bon. Une sorte de volontariat un petit peu obligatoire. Il y aurait des sortes de... Comme on disait
donc
tout à l'heure, il y aurait
une perte d'un certain nombre de droits civiques si on n'est pas volontaire à aller donc faire un vrai service militaire. C'est ça, c'est
alors,
la troisième
non.
phase.
Alors voilà, alors, c'est encore la différence avec le service militaire. C'est-à-dire que, sauf que c'est toujours... dans le but d'encadrer, etc. C'est une sorte de service civique, si tu veux. Enfin, ce ne sera pas remplaçant du service civique, mais c'est pareil, ça pourra être fait dans un nombre de structures assez vastes qui ne sont pas encore définies. Mais on t'encourage à ce que ce soit, évidemment, dans un certain nombre. J'ai la liste quelque part. Mais...
Et plutôt lié à l'armée, quand même.
Ah, dans l'idéal, dans la défense ou la police ou voilà, la gendarmerie. Attends, c'est ça. Donc, puis chaque volontaire pourra, s'il le souhaite, adhérer à un engagement pour une durée de 3 mois à 1 an dans le département de son choix pour des missions concernant la défense et la sécurité, l'accompagnement des personnes, la préservation du patrimoine ou l'environnement. Voilà. Donc,
Tiens, l'environnement est là aussi.
L'environnement, ouais.
Ah, quand même.
Ah oui, ça
Il y en a de partout maintenant.
Bah, l'environnement, c'est-à-dire qu'on... D'un côté, on a le capitalisme sauvage qui dévaste tout. Et puis de l'autre côté, on va mettre en place des services civiques pour faire bosser des jeunes quasi gratos pour sauver l'environnement.
Alors là, on voit bien que c'est vraiment une position de lanceur d'alerte. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est difficile de trouver de l'information. Un travail que tu as dû faire, mais tout est remis au conditionnel parce que ça se trouve, ils sont tout en train
Alors,
de changer.
Tout est remis,
qu'est-ce qu'on sait sur cette phase de test?
Quelle est en ce moment, en fait, la phase de test? Non, la phase de test...
Aucun des gamins ne parle de ce qu'il est en train de vivre, ça n'a pas fuité.
Eh bien alors, parce que ça n'a pas commencé vraiment, il y a eu une sélection. Et là,
des gamins sont sélectionnés, là?
Oui, oui.
Ils le savent,
oui.
Qu'ils sont sélectionnés?
Oui, parce qu'ils sont volontaires,
bon.
Pour le coup.
Ah.
Ils sont proposés volontaires et ils ont été sélectionnés ensuite ou pas selon plein de choses. On ne sait pas trop, c'était censé être représentatif. Alors je me demande si c'est représentatif comme les participants au grand débat. Bon, voilà. C'est comment c'est représentatif.
Oh, c'est gratuit, ça.
Oui. Non, c'est pas gratuit. Rappelez-vous, les grands débats, ça a été pointé, ça, du doigt, quand même, que ça avait été une sélection drastique et que les questions avaient été sélectionnées aussi. Donc, je peux me poser la même question de façon honnête, sans que ce soit gratos, non?
Alors, dans le cadre de cet exposé, donc, tu alertes un peu les gens à prendre conscience que ce truc-là est en train de se lancer, de se tester.
Et puis dès l'année prochaine, en fait, selon la phase test là, et les résultats qu'il donnera, il sera lancé quoi qu'il en soit. C'est les questions pragmatiques qui sont en train d'être réglées grâce à la phase test. Mais finalement, c'est en train d'être mis en place. Quoi. Vraiment, pour de vrai, l'année prochaine, on a nos gosses qui vont devoir participer, en fait, si ça continue comme ça. Quoi. Et donc, il y a un problème de taille qui se pose pour moi, c'est que légalement, dans la Constitution, il est interdit de rendre obligatoire l'internat, tu vois, donc pour les mineurs. C'est-à-dire que normalement, tu vas dans un lycée public classique et puis tu rentres chez tes parents le soir. Et si besoin, tes parents décident de te mettre dans un internat parce que le lycée est loin, parce que c'est une option particulière, tout ça. Mais c'est interdit de prendre les enfants des gens sans leur consentement, en fait. Ce qui me paraît plutôt
normal,
voilà. Ben donc le gouvernement là se propose de changer la constitution pour qu'on puisse mettre des mineurs sans le consentement de leurs parents dans une caserne. Moi ça me ça me choque énormément, en fait.
Oui. Première alerte donc, déjà pour
voilà.
Commencer.
Voilà, mais il y a plein de choses comme ça, en fait. Comme j'aimerais que les gens viennent viennent à l'ECDD ce 1er juin, bah non, et
voilà.
Puis ça dure un certain temps quand même. Enfin, je parle un certain temps, et puis je démontre ce que je dis, parce que je cite quand même pas mal ce que j'ai trouvé sur les sites du gouvernement, parce que je suis pas là pour faire l'idéologie pure, quoi. Je suis là, c'est un exposé qui est plutôt démonstratif et technique.
Alors, en dehors du fait que ce soit effectivement très choquant de se faire retirer ses enfants sans qu'on ait envie, on peut imaginer d'ailleurs qu'il y ait des parents qui soient très antimilitaristes ou très opposés à cette mesure et qui ne pourront pas, du coup, faire valoir leur droit de liberté de conscience. Est-ce que c'est de nouveau un dogme, pour revenir à la conversation de départ?
En tout cas, quand c'est organisé comme ça, on peut se le demander. Ouais. On peut se demander s'il ne peut pas y avoir des mécréants de l'esprit de défense. Du coup, les gens qui auraient dit non, les gens qui auraient dit simplement « ça ne m'intéresse pas », parce qu'on a quand même le droit que ça ne nous intéresse pas. On a le droit d'y être fermement opposé aussi. Il y a plein de pacifistes en France. Et on a le droit, en devenant grand, en réfléchissant et en maturant ses positions, de devenir un pacifiste et de ne pas avoir envie d'être enfermé un mois avec des militaires qui vont te bourrer le crâne de l'esprit de défense. C'est des positions qui sont normalement permises, en fait, par la Constitution française, quoi.
Donc, voilà, on en revient là. C'est bien des éléments de la Constitution et de la partie
et de la loi,
liberté,
ouais. Ouais, ouais.
Qui est en train d'être touchée. Est-ce que c'est quelque chose qui se sait là? Enfin, t'es la seule
c'est
à
vague,
faire des exposés comme ça?
Bah, c'est assez vague.
Qui en parle?
Et ben bientôt la Ligue des droits de l'homme, parce que il y a pas longtemps j'ai donné ce petit exposé à Saint-Étienne et il y avait des membres de la Ligue des droits de l'homme et le président là me disait que ils sont en train de prendre une position. Sauf que c'est pareil, comme on manque de données, c'est compliqué de prendre une position ferme sur un truc un peu vague. Donc il était content d'avoir les détails techniques que j'ai donnés pour pouvoir alimenter la position qui va évidemment être contre le SNU. Ça me paraît évident. Voilà.
Et ça répond à une attente particulière au-delà d'un délire présidentiel, peut-être. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a manqué? Est-ce que l'armée a pendant plusieurs années dit quand même depuis Chirac qu'on
ah bah oui là on est en train de on est en train de alors le service militaire il a été supprimé pas pour plus de liberté de conscience, elle a été supprimée parce qu'il marchait plus et il remplissait plus les casernes, les gens s'engageaient pas à la suite du service militaire, tout ça.
Il se tapait le service mais il venait pas quand même.
Non, enfin oui, il venait pas après, en tout cas il y avait pas d'engagement, il y avait pas de voilà, on sentait que ça marchait pas. Donc ça c'est une tentative, une nouvelle tentative en fait de pas de moins d'armée, de plus d'armée, de mieux d'armée en fait dans la société. Le but, c'est quand même la militarisation de la société, en fait, quoi, et d'avoir un nouveau vivier pour les casernes. Ouais, c'est très clair que c'est ça.
Mais dans quel objectif?
Dans quel objectif?
Pourquoi mettre plus de monde dans les casernes? Enfin, je veux dire, ça sert à quoi?
En tout cas, là, il manque. Enfin, ils n'arrêtent pas de recruter. Ils n'arrêtent pas de recruter et d'être en manque de gens, etc. Donc, c'est pour avoir un vivier frais, quoi, régulier. Et puis des gens qui réfléchissent pas trop, parce que c'est quand même un des principes de l'armée.
La France a-t-elle vraiment besoin d'une grosse armée? Enfin, ça rejoint là. Bon, en ce moment, il y a des programmes de politique européenne de défense, il y a des programmes.
Évidemment, ça va avec une dérive un peu sécuritaire qu'on voit un peu partout. Oui, est-ce qu'il n'y a pas... Évidemment que la France, elle a besoin d'armée. La France, elle va piller des pays africains encore sous des motifs démocratiques pour aller piquer l'uranium. Donc, bien sûr que la France, elle a besoin théoriquement d'armée. Elle a besoin d'armée parce qu'elle a besoin d'avoir une belle image pour vendre des belles armes. Elle a besoin de tout ça, ouais. Enfin, elle a besoin. Ils pensent qu'elle a besoin de ça. Je pense que ça s'oppose à la vision de la France de pas mal de gens.
Donc, c'est ça l'objectif. Mais il n'a toujours pas été dit qu'on ferait concrètement un service militaire avec des armes, etc. Ça, c'est peut-être pas encore, c'est pas encore défini.
Non, c'est pas défini. Et puis, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite de cet ordre-là, en fait.
Donc, toute la démarche philosophique inciterait, en fait, des jeunes à finalement aimer tellement l'armée d'eux-mêmes qu'ils s'y engageraient.
Ouais, ou puis même, tu sais, un peu. Mettre dans la tête des gens que l'armée est un truc un peu valorisable, valorisant, que l'esprit de défense c'est important, mais dans le crâne de tout le monde en fait, que les gens qui s'engagent ou pas, parce qu'évidemment l'armée sait qu'ils ont besoin de gens dans le civil en fait, enfin, ça me paraît évident qu'on va pas vider le civil pour remplir l'armée, mais que cet esprit de défense là, il pénètre un peu partout quoi en fait. Hein.
On a un déficit de patriotisme hein, clairement depuis la chute du maréchal.
Ça part d'un faux constat. Et c'est vraiment leur ligne de base, c'est que le jeune s'engagerait plus. Le jeune s'engage plus, le jeune est mou, le jeune est nul, le jeune ne réfléchit pas, le jeune il s'engage pas, il pense pas à la nation, c'est ça, tout ça. Ce qui est faux, en fait, quand tu regardes un peu vraiment les statistiques, c'est faux. C'est-à-dire que le jeune, il s'engage moins dans des choses institutionnelles, il s'engage moins dans les partis politiques, il s'engage moins dans l'armée, il s'engage moins dans les syndicats. Mais en fait, quand tu regardes vraiment la vie des assos, alors des fois, ils sont pas adhérents, par contre, ils sont très souvent bénévoles. On le voit, nous, par exemple. Donc, en fait, le jeune est très engagé. Il est juste engagé différemment. Et je crois que ça les déroute pas mal, cet autre engagement un peu moins embrigadé, en fait.
Ou pire encore, il s'engage dans des zones à défendre.
C'est ça, il s'engage pour aider les migrants. Il s'engage dans des zones à défendre. Ouais, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est pas ça qu'ils veulent.
Ouais, c'est pas très...
Et réfléchir, c'est commencer à désobéir.
Cet exposé sera donc le 1er juin à l'espace social de Die et du Diwa.
À 15h. 15h dans la salle communautaire, c'est gratuit, ouvert à tous. C'est l'occasion...
Combien de temps il dure un peu cet exposé?
Je crois qu'en une heure, j'y arrive.
Bon.
Et après, il y a un temps de discussion.
De discussion. Ça s'est passé donc à Saint-Etienne et à d'autres endroits. Ça fait combien
de temps? Non. J'ai su un peu les plâtres. Là. C'est la deuxième fois.
Bon.
C'est la deuxième fois. J'ai eu l'occasion un peu de le remettre à jour depuis Saint-Etienne. Et puis, je le ferai ensuite, je pense, à Bourg-lès-Valence bientôt.
Et à Saint-Etienne, il y avait un échange aussi?
Oui, un vrai échange.
Alors, quel type de questions tu dois affiner ton propos, aller plus loin dans le détail, ou alors on est plutôt dans des questionnements philosophiques?
Alors on m'a posé des questions techniques auxquelles je n'ai pas forcément de réponse. Ensuite, il y a des gens qui ont rajouté des éventualités, qu'on a rajouté sur ce que je disais, avec des mots des fois un petit peu différents selon le milieu militant duquel ils venaient. Il y a plein de choses que je peux ajouter ou pas à l'exposé, ou qui vont me faire rebondir sur des nouvelles choses qui font... Voilà. C'est souvent intéressant, mais bon, là, c'était la première fois. Donc, j'attends avec impatience, franchement, les diwas sur ce truc-là, parce que je pense qu'on est un terreau qui est fertile à la réflexion et pas trop fertile à la militarisation. Et donc, j'espère qu'il y a des gens qui vont venir nourrir ça, quoi.
Donc, rendez-vous à l'espace social.
Voilà, l'espace social, le samedi 1er juin à 15h, à la salle communautaire, pour venir d'abord m'écouter. Poliment, s'il vous plaît, et ensuite dire plein de choses avec moi. Voilà.
Est-ce qu'on peut envisager que tu compiles quelque part ça sur le site de l'Internet, par exemple, de la Libre Pensée ou ailleurs, pour qu'on puisse de nouveau chercher ces informations, voir tes sources, hein, parce qu'on entend toujours des gens qui citent des sources, des fois on se dit bon, bah,
bon,
c'est
alors,
bien.
Toutes les sources, pour l'instant, il n'y a rien de publié de ce truc-là, parce que c'est avant tout un exposé oral, et par contre je peux fournir toutes les sources à la fin du truc, j'ai tous les liens, tout ça, tout est noté, donc ça, sans problème.
Bon.
Et je ne cite que des sites gouvernementaux, c'est quand même le comble. C'est-à-dire que je cite pas d'interprétation d'autres gens.
Ni même de médias, puisque personne n'en parle.
Alors les médias, ils reprennent tous les mêmes communiqués. Et ils sont plus ou moins
à fond
selon le lectorat, quoi. Mais c'est vraiment, ça tourne en rond niveau article, quoi. C'est pas très intéressant. Donc non, je ne cite que du gouvernement, du gouv.fr ou servicepublic.fr, ce genre de choses. Voilà. Quand je cite autre chose, je le dis. Chose à rajouter ?
Ouais.
Ben venez, ça me ferait plaisir, moi, qui est de toute classe d'âge, j'avoue. Des gens curieux, en fait, et qui sont, pourquoi pas, un peu inquiets de ce qu'on est en train de nous cuisiner, là. Des parents qui se disent « Attends, comment ça, la caserne contre mon gré ?» Enfin, ouais, je pense qu'il est... Il est temps de se pencher dessus. Je crois qu'il est temps de se pencher dessus et qu'ils attendent. C'est écrit ça aussi sur les sites gouvernementaux, sur les rapports de l'Assemblée nationale, dans tout ce qu'on peut trouver sur le SNU. Ils s'attendent à une opposition. Ils flippent un peu. Ils savent pourquoi. Voilà. Je ne fais que...
Lancer l'alerte.
Ouais, si tu veux.
Ouais,
si tu tiens.
Attends, mais bien sûr, c'est exactement ça. Et si des gens qui ne sont pas du tout dans le DIWA ont entendu cette interview et veulent te faire venir ?
Alors oui, c'est carrément possible. Il suffit de d'envoyer par exemple un message à la radio et en donnant ses coordonnées, et moi j'aurai ce message et je vous joindrai à mon tour sans problème, parce que je peux éventuellement me déplacer.
Bah oui, Saint-Étienne déjà.
Voilà. Alors évidemment, je me déplace si on me paye le billet de train, parce que je suis pauvre. Donc ce ne sera pas sur mes deniers personnels, je préfère prévenir. Mais ouais, sinon je peux me déplacer sans souci. Ça fait partie des trucs dont je n'ai pas parlé de la libre pensée, mais il y a plein de gens qui sont à libre pensée, qui ont des sujets de prédilection et qui sont invités dans divers assos à diverses occasions à faire des petites conférences, des débats, des trucs, un petit peu faire réfléchir sur des choses sur lesquelles des fois on a des idées préconçues et des fois avec un autre éclairage tu te dis ah putain je m'étais laissé avoir. C'est intéressant de voir que par exemple l'islam c'est pas incompatible avec la démocratie par exemple, ou qu'on se fait des idées trop faciles parce qu'on nous fait peur avec plein de choses.
Le service national universel en questionnement donc à l'espace social ce 1er juin à partir de 15h, et puis pourquoi pas pour faire le tour de la France.
Tout à fait. Pour des renseignements sur la Fédération nationale de la libre pensée, c'est www.fnlp.fr. C'est facile. Voilà.
C'est facile. Donc Émilie pour la libre pensée, merci.
Eh ben de rien, c'était un plaisir.
À la prochaine.
Interview. Hey, the bird.
L'interview du jour.